Vous écoutez, on lit pour vous.
Optimiser sa capacité d'apprendre, un texte d'Yvon Charest, paru le 6 janvier 2025 dans la presse. Selon Nietzsche, les vérités les plus précieuses sont les méthodes. Une méthode peut être une pratique simple qui soit d'application quotidienne et qui permette de faire quelques progrès. Certaines personnes ont le talent d'apprendre constamment et rapidement de leurs expériences. Au-delà du talent, mettre en place une méthode d'apprentissage permet de renforcer, parfois de façon significative, la capacité de se développer soi-même. La méthode que je suggère repose sur les trois éléments suivants, soit consolider son temps discrétionnaire, se poser les bonnes questions et apprendre à conclure. Nous vivons dans une société où il est naturel de manquer de temps, au point que prétendre le contraire vous fera passer pour un menteur. Une façon utile de faire un meilleur usage de son temps est de se réserver des plages de temps courtes et fréquentes, loin des distractions de la vie quotidienne, pour réfléchir. Cela peut être en début ou fin de journée, ou encore durant les moments de solitude dans les voyages, le but étant de consolider du temps discrétionnaire pour méditer durant les interstices de l'action. La production de ce texte, par exemple, a suivi ce processus, soit quelques plages de réflexion tôt le matin, suivies de la rédaction durant un vol d'avion, dont une bonne partie avant le décollage. Le deuxième élément, et probablement le plus important, est d'être capable de se poser les bonnes questions, celles qui dirigent notre centre d'attention sur des enjeux pertinents. C'est un peu comme la lecture, où l'offre est si vaste qu'il est difficile d'identifier le prochain bon livre ou magazine qui nous fera du bien. Les bonnes questions sont sans fin et particulières à chacun. Je vais aborder quelques questions universelles. Les bonnes questions dans la gestion de projet peuvent être « Qu'est-ce qui me retient d'avancer entre le manque d'énergie, une peur quelconque ou un manque d'organisation? Que suis-je prêt à faire pour que les choses tournent comme je le veux? Quel comportement suis-je prêt à modifier pour parvenir à mon but? » Un enjeu pertinent peut concerner l'efficacité de mon unité. La bonne question est : est-ce que je sais exactement où se situent les principaux problèmes de performance dans mon unité? Il faudra peut-être répondre aussi à celle-ci : quel sujet avec lequel je suis mal à l'aise dois-je aborder avec une personne à la prochaine opportunité? Je suggère aussi de faire un examen sérieux des situations dont on se plaint. Lorsqu'une plainte revient, il y a lieu de demander « Quelle est ma motivation profonde d'accepter la situation dont je me plains ?» ainsi que « Pourquoi n'ai-je pas encore pris les moyens pour changer la situation ?» Une question universelle de fin d'année s'énonce comme suit. Si j'avais à modifier une décision clé prise dans la dernière année, quelle serait cette décision et pourquoi est-ce que je la changerais? Le troisième et dernier élément de la méthode que je suggère ici est de développer le muscle qui permet de faire des synthèses et de conclure. C'est le passage obligé pour comprendre certains concepts, se les rappeler et les intégrer dans son quotidien. Il s'agit, pour citer Jean Guiton, de résumer nos impressions ou les directions de nos pensées, puis de résumer ce résumé à son tour jusqu'à ce que nous obtenions une formule rayonnante. Comme dirait Yvon Deschamps, que ça donne d'avoir une longue analyse sans conclusion. Il faut poursuivre la réflexion jusqu'au moment où l'on a enfin appris quelque chose, comme s'enrichir d'un principe d'action ou avoir une leçon à retenir dans ses comportements ou relations avec autrui. La mise en place de cette méthode pour apprendre à réfléchir et à conclure ne nécessite pas d'attendre l'inspiration. Elle débute avec deux seuls ingrédients, soit un peu de temps de qualité et quelques bonnes questions. Pourquoi ne pas faire un test avec la question existentielle? Aimez-vous cette vie telle que vous la menez? C'était « Optimiser sa capacité d'apprendre », un texte d'Yvon Charest, paru le 6 janvier 2025, dans la presse.
Pourquoi est-ce si difficile de réduire ses dépenses? Un texte de Stéphanie Bérubé, paru le 2 juin 2024 dans la presse. Le contexte économique des dernières années a mis de la pression sur le budget pour beaucoup d'entre nous. Malgré cela, on peine parfois à réduire certaines dépenses. C'est que notre rapport à l'argent est souvent, très souvent, plus complexe qu'il n'y paraît. Explication. Une symbolique particulière. Déjà, il faut se rappeler que nous ne sommes pas tous égaux devant la dépense et que cela n'a rien à voir avec nos revenus. Sinon, dès que nos revenus augmentent, nous pourrions économiser davantage. Or, c'est souvent le contraire qui se produit, rappelle Myriam Hertz du département de marketing de l'Université du Québec à Chicoutimi, UQAC. C'est la manière dont les gens se sont habitués à quelque chose qui va déterminer le comportement de dépense, dit-elle. Explication. On commence généralement avec des revenus plus modestes dans notre vie adulte, précise la professeure. Et puis, toujours selon un scénario habituel, les revenus augmentent après les études. On commence à avoir plus et donc on pourrait économiser plus. Mais en fait, plus les entrées d'argent augmentent, plus les structures de dépenses augmentent. Parce qu'on veut monter dans la strate sociale, on ne va donc pas forcément économiser plus. On dépense juste plus. Et la rétrogradation n'est pas un mouvement naturel. Ce serait d'avoir un niveau de consommation et d'aller un cran en dessous plutôt qu'un cran au-dessus. Or, notre nature et la société nous poussent à aller un cran au-dessus, à toujours vouloir aller plus loin. Un exemple concret. De nombreuses personnes seront tentées d'opter pour une voiture plus luxueuse si elles atteignent des revenus supérieurs. Le rythme de vie change, précise Myriam Hertz. À quel point est-il possible d'amener les gens dans une idéologie de rétrogradage plutôt que d'accroissement et d'accumulation? Je ne sais pas. Dépenser. Mais pourquoi? Myriam Hertz est responsable du laboratoire sur les nouvelles formes de consommation de l'Université du Québec à Chicoutimi, une unité de recherche qui s'intéresse à la fois aux consommateurs, aux organisations et au bien-être social. Selon elle, il faut distinguer deux types de comportements face à l'argent qu'il nous reste lorsque l'on a des surplus. Et déjà, ça montre deux tendances de dépenses. Il y a ceux et celles qui vont combler les besoins de base, manger, se vêtir, se loger, et ensuite dépenser davantage dans les mêmes catégories. Pour aller dans des restos plus chics et s'offrir des vêtements avec des logos qui valent leur pesant d'or. On comblerait donc les mêmes besoins différemment, explique la professeure Myriam Hertz. Et puis, il y a les consommateurs qui vont acheter d'autres choses, des services et des biens qu'ils ne se seraient jamais procurés avant d'avoir de meilleurs revenus. On dépense pour des choses qui, entre guillemets, ne servent à rien, précise Myriam Hertz. On peut tous gaspiller son argent. Ça dépend de la situation financière, mais aussi des priorités, des valeurs et des habitudes de vie, selon Myriam Hertz. Les temps changent. Autre point à considérer. Nos vies changent et on peut difficilement revenir à un niveau de dépenses qui ne correspond plus à nos réalités. seul, on a moins d'obligations que si on est parent. Si on devient propriétaire d'une voiture et d'une maison, ça implique inévitablement des coûts. Avant de se reprocher ces dépenses excessives, il faut aussi mettre les choses en perspective. En 2024, on n'est plus dans le même contexte qu'en 2020. On a eu un choc majeur dans l'économie, rappelle Myriam Hertz. Tout est plus cher. Pour une importante partie de la population, les salaires n'ont pas suivi cette courbe vers le haut, indique-t-elle. Déjà, l'effet inflationniste a changé la donne. On dépense plus pour la même chose et pour les besoins de base comme la nourriture. Et puis, il y a les dépenses de plaisir, les restos, le cinéma. Ces dépenses hédoniques sont-elles essentielles? Oui et non, répond Myriam Hertz. On pourrait tous avoir un mode de vie plus spartiate, mais il y a cet aspect plaisir qu'il faut prendre en compte parce qu'il fait du bien au moral des gens. Vous écoutez « Pourquoi est-ce si difficile de réduire ses dépenses ?» un texte de Stéphanie Bérubé, paru le 2 juin 2024 dans La Presse. L'argent comme vecteur social. Il faudrait au départ se demander quel rôle joue vraiment l'argent dans notre vie, amène Tessa Waldron, autrice du livre « Le déclic du fric ». Aujourd'hui, l'argent est un outil de socialisation, dit-elle tout de go. Cela permet à la fois de faciliter nos échanges les uns avec les autres, mais aussi de participer au grand jeu économique. Si on devait le définir, dépenser fait partie de notre tâche de citoyen du monde, dit Tessa Waldron. C'est contre nature aujourd'hui de dire qu'on ne va pas dépenser, dit-elle, dans une société où tout le monde dépense et où tout est fait pour que l'on dépense. Réduire ses dépenses est-il une mission impossible? Pas du tout, répond l'autrice, qui prévient néanmoins que réduire son niveau de vie, c'est aller à contre-courant. On dépense pour appartenir à une classe sociale, précise Tessa Waldron. Dis-moi sur quoi tu dépenses et je te dirai à quelle classe sociale tu appartiens. La fin de la culpabilité. Il faudrait aussi en finir avec la culpabilité de la dépense, estime Tessa Waldron, qui s'intéresse particulièrement aux finances des femmes. C'est culpabilisant de dépenser, mais aujourd'hui, il y a plein de systèmes en place qui enlèvent la douleur du paiement. Le crédit ou les paiements différés, notamment. Selon elle, chacun doit dépenser en connaissance de cause, prendre la décision de dépenser et bien vivre avec celle-ci. Cela permettra plus aisément de réduire les dépenses. C'est important de le faire, poursuit Tessa Waldron, mais il faut faire attention à ce qu'on réduit. Si on réduit le budget restaurant, alors que tous nos amis vont au restaurant, on risque une exclusion qui ne sera peut-être pas bénéfique finalement, calcule l'autrice qui prévient que la réévaluation des dépenses doit aller au-delà de la facilité, au-delà de la résiliation à un abonnement qui a une certaine importance dans notre bien-être. La fameuse société de consommation. N'en déplaise aux idéalistes, nous vivons encore dans une société de consommation. On est dans une société qui est essentiellement matérialiste, plaide la professeure Myriam Hertz. On ne veut pas nécessairement le dire ou se l'avouer, mais on évalue toujours les gens selon leurs avoirs plutôt que leur être. Cela amène une cascade de comportements en conséquence. Selon elle, la société continue d'évaluer la réussite avec des critères matérialistes. La référence matérialiste reste la référence ultime, dit Myriam Hertz, qui précise que c'est parfois une réalité que l'on n'aime pas voir. Nous ne sommes plus dans des sociétés qui sont axées sur des idéologies, poursuit-elle. Nous sommes dans des sociétés axées sur des avoirs, sur des possessions. Et ça passe par la dépense, par la consommation. Ralentir ensemble. Selon la professeure Myriam Hertz, il faudra une structure pour favoriser une décroissance globale. Les petits gestes font la différence. Cela peut être aussi simple que d'adopter la consommation en vrac, dit Myriam Hertz, car ça nous ramène déjà à réfléchir, si ce n'est qu'en pensant à apporter ces contenants. Des petites choses comme ça, par-ci, par-là, émergent. Bout à bout, après un certain temps, elles vont nous mener vers une société plus sobre. Le proverbe dit « Les petits ruisseaux font les grandes rivières », rappelle Myriam Hertz, qui maintient que ralentir la consommation est un mouvement qui demandera des changements systémiques. La professeure rappelle aussi que la sobriété est au cœur du discours de Québec circulaire qui incite à une réduction de notre consommation pour protéger les ressources. Mais on sent quand même qu'il y a une résistance quand on parle aux gens de sobriété dans la consommation, admet Myriam Hertz. Une minorité est séduite par un mode de vie plus sobre. La majorité, précise-t-elle, va être poussée dans une dynamique où on met davantage plutôt que moins. C'était « Pourquoi est-ce si difficile de réduire ses dépenses ?» un texte de Stéphanie Bérubé paru le 2 juin 2024 dans La Presse.
La pilule modifie le cerveau. Un texte de Sophie Mangano, paru le 9 janvier 2025 dans Québec Science. Les contraceptifs oraux, utilisés par des millions de femmes, sont associés au rétrécissement d'une région cérébrale essentielle à la régulation des émotions. Utilisée par près de 150 millions de femmes dans le monde, la pilule contraceptive est souvent prise dès l'adolescence, période où se produisent de nombreux changements hormonaux et cérébraux. Nous avons voulu étudier les effets cérébraux liés à l'utilisation des contraceptifs oraux et leurs effets durables, très peu connus, explique Alexandra Brouillard, candidate au doctorat en psychologie à l'Université du Québec à Montréal, sous la supervision de Marie-France Marin, qui est aussi chercheuse au Centre de recherche de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal. Leur étude, publiée en novembre 2023 dans le journal Frontiers in Endocrinology, révèle un fait marquant. Chez les femmes qui prennent la pilule contraceptive, le cortex préfrontal ventromédian, une partie du cerveau importante dans la régulation des émotions, est plus mince que chez les personnes qui ne l'utilisent pas. Autre découverte de taille, cet effet associé aux contraceptifs oraux serait réversible. Ce sont des études antérieures sur les contraceptifs oraux et la régulation des émotions qui avaient mis la puce à l'oreille de la chercheuse et son équipe. On s'est inspiré de ce qui a été fait dans le passé, mais on a adopté une méthodologie beaucoup plus rigoureuse en tenant compte de l'historique de contraception de nos participantes. L'équipe a recruté 180 volontaires, répartis en 4 groupes. Des femmes utilisant un contraceptif oral combiné, COC, contenant à la fois estrogène et progestérone, des femmes l'ayant utilisé par le passé, des femmes n'ayant jamais recouru à aucune sorte de contraceptif hormonal et des hommes, afin d'avoir un autre groupe de comparaison. Tous et toutes ont passé des IRM à partir desquels on a étudié l'influence des COC sur la morphologie des zones jouant un rôle dans la régulation des émotions. Pour les pilules contenant de plus faibles concentrations d'estrogène, on a remarqué une atrophie au niveau du cortex, souligne Alexandra Brouillard. En apportant un taux constant d'hormones, le COC inhibe la sécrétion spontanée de ces hormones par l'organisme et maintient des taux plus bas que lors d'un cycle normal. Même si cela reste à valider, les femmes utilisant des pilules faiblement dosées pourraient donc être en déficit d'estrogène par rapport aux femmes ayant un cycle menstruel naturel. Les pilules plus fortement dosées, elles, activeraient davantage les récepteurs aux estrogènes et auraient un effet plus proche du taux naturel. À ce stade-ci, l'équipe n'établit pas de lien entre une modification de l'anatomie cérébrale et un effet tangible, comportemental ou émotionnel. Par contre, la littérature scientifique soutient assez bien que plus le cortex préfrontal ventromédian est épais, plus facile serait la régulation des émotions, explique la chercheuse. On peut supposer que cet amincissement induit une forme de vulnérabilité à la régulation émotionnelle, bien qu'on n'ait pas testé concrètement ce lien-là. Pour ce faire, il faudra notamment mener des études sur de longues périodes. Celles-ci permettront aussi de mieux comprendre la réversibilité des effets. Pour Alexandra Brouillard, c'est encourageant de voir que l'arrêt de la prise de COC semble entraîner un retour à la normale, mais plusieurs questions demeurent. La doctorante et son équipe espèrent favoriser les recherches en santé de la femme, encore assez lacunaires. C'était « La pilule modifie le cerveau », un texte de Sophie Mangano, paru le 9 janvier 2025, dans Québec Science.
Le génie québécois au profit des patineurs internationaux. Un texte de Nicolas Richard, paru le 21 mars 2024 dans La Presse. L'œuf ou la poule? Les paroles ou la mélodie? La chorégraphie ou le costume? On ne saura jamais réellement ce qui vient en premier. Chose certaine, le talent des designers québécois est une denrée dont les meilleurs patineurs artistiques du monde sont incapables de se passer. Je préfère travailler après les chorégraphes Tranche, Josiane Lamont, créatrice de renommée internationale, dans les couloirs du Centre Bell. Je dis toujours qu'un costume réussi en est un qui met en valeur le patineur. Ce n'est pas un costume qui vole la vedette. Si tu regardes le patineur et que tu vois seulement le costume, pour moi, ce n'est pas réussi. Pour Mathieu Caron, la première source d'inspiration, ce sont les patineurs. J'essaie de les connaître, dit-il. Plus je travaille avec eux, meilleur je suis pour eux, je pense, parce que c'est un costume, mais je ne veux pas les costumer. Il faut être près d'eux. Mais oui, la musique va influencer, assurément. Lorsqu'un patineur saute sur la glace après avoir retiré ses protège-lames, le costume est le premier élément de sa proposition à être jugé, avant même de connaître la musique sur laquelle il s'exécutera, avant même qu'il ait effectué une seule boucle, avant même, parfois, de connaître le nom de l'athlète en train de s'échauffer. Parfois sobre, parfois exubérant, mais toujours réfléchi et travaillé, le costume des patineurs artistiques fait partie intégrante de leur programme au même titre que leur saut et leur routine musicale. Parmi les patineurs en action sur la glace du Canadien de Montréal, dans le cadre des championnats du monde, plusieurs sont habillés par des créateurs d'ici. Et c'est vraiment important, un costume à ce niveau-là. Note Mathieu Caron, près de son kiosque de la section 117, où il présente quelques-unes de ses créations, dont certaines ayant été portées par Tessa Virtue et Scott Meyer. Chaque personne va sur la glace pour défendre son programme, son patin et qui il est, nous dit Mathieu Caron. À ce titre, la nécessité pour les patineurs d'enfiler un costume à leur image est immense, car ils doivent l'assumer pendant toute leur saison. Ça demande donc un travail de création précis, minutieux et délicat. Les deux experts que nous avons rencontrés soulignent que 8 semaines en moyenne séparent la première réunion créative et la livraison du produit final. À quelques exceptions près. Dans le cas d'Isabeau Lévito, on l'a fait en 7 jours, explique Josiane Lamont. Ils ont décidé de changer son programme en cours d'année pour les championnats nationaux américains. Donc, ils m'ont appelé et j'avais 7 jours pour faire la robe. Une relation de confiance. Selon les dires de Mathieu Caron, lorsque vient le temps d'élaborer un costume en début de saison, certains ne savent pas du tout ce qu'ils veulent. D'autres savent exactement ce qu'ils veulent. On écoute la musique, je parle avec les chorégraphes, les entraîneurs. Ensuite, je fais des propositions à l'athlète. Caron a habillé tous les patineurs ayant remporté l'or aux derniers mondiaux. Il est aussi derrière l'identité visuelle des Québécois Marjorie Lajoie et Zachary Lagan. Pour arriver à des produits de qualité, le processus est rigoureux. On réfléchit, on discute, on fait des propositions. Une fois que la proposition est acceptée, on part dans la recherche de tissus, on fait des tests, la coupe, l'assemblage, l'essayage et les corrections. L'idée demeure aussi d'éviter de confectionner des costumes au premier degré. Nos deux intervenants en ont horreur. Ils en parlent comme s'il était indigne pour un designer qui se respecte de proposer des idées aussi évidentes que paresseuses. Le chorégraphe fait le schéma du programme, l'histoire derrière le programme, l'émotion. Donc, mon travail est d'aller chercher les mots-clés pour les faire ressortir dans le costume, selon Josiane Lamont. Parfois, c'est clair, parfois, ça ne l'est pas. On ne veut pas que ce soit littéral, précise Lamont. Le roi lion, tu ne veux pas le déguiser en lion. Même perspective pour Caron, qui travaille continuellement à repousser des concepts sans dénaturer l'idée ou l'inspiration originale. Et c'est dans cette quête de raffinement que l'on peut reconnaître les plus brillants créateurs. Si on fait Roméo et Juliette, comment est-ce qu'on peut réinventer Roméo et Juliette pour faire en sorte que la patineuse qui fait Juliette peut l'être avec sa saveur à elle? Comment on va le moderniser? Comment on va rendre ça plus contemporain, plus athlétique, plus sportif ou plus théâtral, si c'est la commande? La tâche est considérable, mais le résultat est habituellement spectaculaire. Si l'habit ne fait pas le moine, il fait généralement une bonne partie du travail dans la prestation de patineur. C'était Le génie québécois au profit des patineurs internationaux. Un texte de Nicolas Richard, paru le 21 mars 2024 dans La Presse.